Donc, on ouvre nos Bibles à l'épître de Paul aux Romains et au chapitre 5. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, donc, quand on arrive au chapitre 5, il nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Et donc, c'est à partir de ce point-là, il est en train de s'adresser, hein, il est en train de décrire ce qu'est la vie chrétienne. Et donc, il y a des notions nouvelles qui apparaissent parce que c'est le message pour l'enfant de Dieu. Donc, Romains chapitre 5, et nous allons relire les 11 premiers versets, comme la semaine dernière. Donc, Romains chapitre 5, et je commence la lecture au verset 1. Il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Donc, nous avons déjà vu dans les versets 1 et 2, la semaine dernière, que c'est par la foi que nous avons été justifiés. Hein, c'est pas parce que nous sommes meilleurs, on n'a pas mis en avant nos mérites, mais c'est parce que nous avons reconnu notre état devant Dieu, on a reconnu la réalité, c'est que nous sommes pécheurs, et que nous avions besoin de quelqu'un pour nous sortir de ce bourbier. Et donc, nous avons été justifiés, et étant justifiés, eh bien, ça a mis en place la paix avec Dieu, hein, c'est très important. La paix, c'est une chose que même le monde recherche, et on dépense des fortes sommes d'argent pour avoir la paix quelque part. Et plus on en parle, moins on en a. Mais... et aussi, il nous dit que nous devons, au verset 2, il dit, nous devons le fait d'avoir eu accès à Dieu, accès à cette grâce. Et cette grâce qui nous permet de baigner dans l'espérance de la gloire. Donc, nous ne sommes pas, c'est pas juste un j'espère, mais c'est, il dit, nous avons la paix avec Dieu, ça nous ouvre la porte, on a accès, et donc... nous savons qu'un jour, eh bien, nous serons dans la gloire. Ce n'est pas juste un vain espoir, mais c'est basé sur une œuvre accomplie. Et donc, ces réalités, hein, le fait que nous soyons justifiés, que nous ayons la paix avec Dieu, que nous ayons accès à cette grâce et que nous avons cette espérance, ce sont toutes des réalités qui sont acquises. Et elle représente l'état que nous avons devant Dieu, cette position. Hein, c'est des choses que nous avons, ça y est, on les a, c'est à notre nom. Hein, et c'est comme lorsque vous lisez un testament, puis voilà, vous êtes héritier. Même pas touché la chose encore, mais bon, le testament a dit, vous êtes héritier. Donc c'est déjà, ça change tout. Hein, donc il dit, voilà. Je vous dis, voilà votre statut nouveau en Jésus-Christ. vous êtes justifié, donc la question du péché est réglée, vous êtes en paix avec Dieu, ça y est, il n'y a plus rien qui vous sépare, le mur de séparation a été enlevé, et il dit, et vous voyez même, la porte est ouverte. Hein, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on regarde de loin, mais c'est que la porte est ouverte, on a accès à cette grâce et cette espérance. Et tout cela est tellement sûr, c'est tellement une réalité qui nous dit, vous savez, les tribulations, les afflictions et tout ça, finalement ça ne nous perturbe pas. Parce qu'on sait que rien ne peut nous empêcher de l'atteindre. Il dit en fait même, hein, c'est l'apôtre Paul, et il sait de quoi il parle, hein, c'est quelqu'un qui a quand même eu des problèmes, il a eu des persécutions, il a eu des tribulations, les difficultés, il sait de quoi il parle. Il dit, mais c'est tellement ces choses, ces réalités sont sûres que nous les avons, qu'il dit que même lorsqu'on regarde à l'affliction, on se dit, mais c'est pour le bien. Parce qu'on sait que n'importe comment, maintenant, dorénavant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il dit donc, les afflictions, eh bien les afflictions, bien, qu'est-ce que, au lieu de nous abattre, eh bien ça produit la persévérance. On dit, bon, alors c'est comme quand vous avez une voiture, vous arrivez sur une côte, eh bien si ça devient pénible, on rétrograde, et puis mais on continue. C'est pas une question de, on change de direction. Non, on rétrograde et on continue. Il dit, vous avez rencontré les afflictions, ça vous ralentit un peu, ça demande un peu plus d'énergie, de foi. Eh bien, on rétrograde, mais on continue, on persévère. Et il dit, et la persévérance, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous donne? Eh bien, elle vous donne la victoire dans l'épreuve. Parce que quand on persévère, on traverse l'épreuve. Les épreuves, ce n'est pas des barrages, c'est des passages difficiles. Hein, et pour chacun, son épreuve est difficile. Hein, donc, parce que Dieu dose pour chacun son épreuve. Hein, donc, pour chacun... S'il appelle ça une épreuve, c'est que c'est difficile. Hein? Et donc, nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres et nous encourager. Mais il dit, voilà, l'affliction, ben, ça ne perturbe pas parce qu'on dit, le Seigneur va s'en servir pour mon bien, comme on disait jeudi soir. Et puis, il dit, alors, qu'est-ce que ça provoque chez moi? La persévérance. Donc, on baisse la tête et puis on y va. Et puis alors il a dit, et puis après, la persévérance, eh ben, ça nous donne la victoire. On sait qu'on va traverser l'épreuve, même si elle est longue. Et pour certains, ça va durer jusqu'à la fin de leur vie. Et pour d'autres, c'est beaucoup moins long. Hein, on ne peut pas se comparer là aussi, parce que c'est Dieu qui gère cela. Et la victoire, eh bien, nous donne... l'espérance. Hein, il dit, finalement, tout cela... Parce que nous savons que nous sommes justifiés, parce que nous savons que nous sommes réconciliés à Dieu, parce que nous savons que nous avons accès, il dit finalement les difficultés de la vie, si la route devient un peu rocailleuse, si elle devient un peu pentue, ou des fois il y a des chicanes dans notre voie vie chrétienne, peu importe. Moi, je sais que j'arriverai. Hein? C'est un peu... J'ai beaucoup apprécié, on en a parlé un peu dimanche dernier, de l'après-midi, mais Job, vous savez, Job, Dieu l'a laissé entre les mains de Satan pendant un moment, il l'a laissé entre les mains de ses amis pendant un moment, puis ensuite, à la fin, c'est lui qui a parlé. Quand c'était entre les mains de Satan, pour nous, c'est toujours terrible, on dit, ah, Satan, ça... Non, Job, il a bien encaissé, hein. Il est fidèle, c'était pas un problème, lui... Pourtant, c'était pour nous, de l'extérieur, on regarde, on dit, ouais, c'était une terrible épreuve. Mais lui, sans problème. Ce qui a été un problème, c'est lorsqu'il était entre les mains de ses amis. Alors là, c'était dur. Là, il a senti vraiment l'épreuve. Et à la fin, c'est Dieu qui lui parle. Et quand Dieu lui parle, on arrive au dernier chapitre de Job. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit au chapitre 48, hein, je crois que c'est. Il dit, écoute-moi, Job 42. il dit, écoute-moi, je te parlerai. C'est Dieu qui parle à Job. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il a dit, il y a des choses que j'ai comprises. Jésus, tu m'as fait passer entre les mains de Satan, entre les mains d'amis qui avaient une théologie un peu différente, parce que ce qui se disait que dès qu'il y en a un malheur, ça veut dire qu'on a péché. Ce qui n'est pas le cas, c'est un peu ce que les disciples ont dit par rapport à l'aveugle né. Hein. Il dit, mais qui a péché, ses parents ou c'est lui, pour qu'il soit né aveugle? Et Dieu dit, mais ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas automatique, parce qu'il y a une épreuve qu'il y a péché. Donc, il a dit, voilà. Et à la fin, Dieu a fini avec Job, et Job, il a dit, maintenant, c'est comme si tout d'un coup, j'ai la vue. Pourtant, il avait été dit de lui qu'il était un homme juste. Oui, mais c'est autre chose. Et vous savez, Dieu va se servir, même en enfant de Dieu, on est justifié, gloire à Dieu, alléluia, les péchés sont pardonnés. Mais Dieu dit, mais oui, bon, puisque la vie, il y a des épreuves dans la vie, parce qu'il y a des difficultés, et ben, je vais m'en servir pour finir le travail. Hein, et le travail de finition, et puis dire qu'il y en a, hein, quand il a affaire à nous, en tout cas avec moi, le travail de finition, ça fait quelques années qu'il y travaille et il n'a pas fini encore. Donc, mais ce que l'apôtre Paul dit en Philippiens 1:6, il a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit, bon, vous savez, c'est quand on lui donne notre vie, hein, le Seigneur dit, venez à moi tel que vous êtes, on vient à lui, c'est du brut, hein. Et puis alors, après, il prend ce bout de charbon, là, et puis il faut qu'il le transforme en un diamant. Voilà, le diamant, c'est du carbone aussi, hein, mais c'est autre chose, et ça prend de la valeur. Mais il a dit, il faut que je travaille. Et donc, le Seigneur, Paul dit, oui, ces choses sont sûres, on est justifié, donc il y a cette sécurité, on sait qu'on est sauvé. Mais il dit, bon, après il y a le passage, mais ça ne perturbe pas. On sait où ça mène et on traverse. Et c'est après avoir dit tout cela qu'on arrive au verset 5 qui dit, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il dit, et c'est à ce moment-là qu'il nous parle de l'amour de Dieu. Souvent on dit, ah ben si Dieu m'aimait, il ne permettrait pas que ceci arrive. Lui dit, justement, c'est l'amour de Dieu. Justement. Et c'est à ce moment-là, en parlant de l'enfant de Dieu, qui passe par des moments difficiles, il dit, et l'amour de Dieu est répandu par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Donc, je ne vais pas développer cela maintenant, on reviendra plus tard, mais l'Esprit de Dieu, on le reçoit au moment où je place ma foi en Jésus-Christ. Je reçois l'Esprit de Dieu en moi. Et puis alors, après, lui, il commence à dire, bon, maintenant, je vais te faire connaître quelque chose que tu n'as jamais connu avant, l'amour de Dieu. Et puis il a dit, il répand en nous cet amour, l'amour de Dieu. Et donc, à partir du verset 6, donc, il va commencer à nous parler de cette œuvre. Premièrement, il va nous parler de la preuve de l'amour de Dieu, hein, les versets 6 et 7, jusqu'à 8. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un homme juste, quelqu'un mourrait peut-être pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la première chose, c'est la preuve. Il dit, je vais vous donner une preuve de l'amour de Dieu. Parce que quand on a une preuve, après, c'est réglé. Hein, une fois que... Vous savez, une fois que quelqu'un nous a expliqué la chose, on a compris, après ça, on oublie l'explication, mais on garde le résultat. Hein. Donc il dit, voilà, je vous explique tout ça, et après, vous pouvez oublier le mécanisme, mais vous savez que c'est vrai. Et la preuve concrète d'un amour, c'est le don que l'amour génère. Hein, c'est
C'est s'il y en a, on parle d'un amour, mais qui fait rien, qui donne rien, qui fait aucun geste, rien du tout, c'est pas de l'amour, ça. L'amour, tel que Dieu en parle, et comme on a lu dans 1 Jean 4, il dit de l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui fait quelque chose, qui donne. Et l'amour doit s'exprimer, s'il existe. Hein. Et c'était étonnant. Tout à l'heure, le frère, dans sa prière, il a dit que l'amour n'a pas de corps. Et c'était une nouvelle pensée pour moi aussi, je l'ai dans mes notes aussi. L'amour n'a pas de corps. Hein. L'amour, c'est... Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de photo, on peut rien. L'amour n'a pas de voix pour s'exprimer. L'amour n'a pas de membres pour agir, sinon les miens. En fait, la réalité, c'est que Dieu, il a dit, j'aime, il faut que je le communique. Et donc, Dieu s'est incarné et s'est donné un corps afin de pouvoir nous dire combien il nous aimait. Parce que l'amour a besoin d'un corps pour pouvoir dire qu'il aime. Et donc Dieu s'est incarné, il est devenu homme en la personne de Jésus-Christ afin de pouvoir nous dire « je t'aime » et de faire l'acte qui démontre son amour. Et donc... nous avons des versets, et ça c'est un thème qui est clair dans l'Écriture. Bien sûr, ce verset que vous connaissez si bien, « Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Et il a donné qui ? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour donne. Et après, donc, il suffit d'évaluer le don, et on voit le degré d'amour. C'est et quand vous certainement vous l'avez vécu, quand vous recevez un cadeau de quelqu'un, il y a des cadeaux qu'on reçoit, ben on dit bah oui bon, c'était mon anniversaire, il a dû trouver quelque chose, et il m'a donné. Et il y a des cadeaux, on dit wow, il a vraiment pensé à moi, vraiment ce que j'aimerais, c'est les couleurs, c'est tout. Et tout d'un coup, dans le cadeau, on voit toute une réflexion. Et là, ce cadeau, il vaut quelque chose. Hein, parce qu'il dit quelque chose. Et il y a d'autres cadeaux, ce n'est pas plus que le papier qui l'enveloppe. Hein, mais et vous le prenez, puis dès que vous avez l'occasion, vous le filez à quelqu'un d'autre. Dieu nous dit son amour par la nature du cadeau qu'il nous donne. Il nous dit aussi dans Éphésiens 5, 25, il nous dit « Dieu, car Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle ». Il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc à partir du moment que l'Église existe, la mort de Christ intervient aussi pour donner la vie à l'Église. Hein, l'Église dans le sens de l'ensemble de tous les croyants qui ont placé foi en Jésus-Christ. Et puis Galates 2:20 nous dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». Dans Jean 3:16, c'est « Dieu a tant aimé le monde ». Dans Éphésiens 5:25, il dit « Dieu a aimé l'Église ». Et dans Galates 2:20, il dit « Dieu m'a aimé ». Et dans tous les trois, il a donné son Fils. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en fonction de l'objet de son amour. Et son amour, c'est ce que c'est qu'on ait affaire avec le monde, qu'on ait affaire avec l'Église, qu'on ait affaire avec un individu. C'est le même amour qui s'exprime tout le temps. Hein, on peut compter sur l'amour de Dieu. C'est la nature que ça a toujours cette nature-là. Hein, ne vous dites pas, « Ah, mais moi, bon, je n'ai pas été un bon chrétien, ou ceci, cela, donc Dieu ne m'aime pas autant. » Ça, chez les hommes, ça existe. Mais chez Dieu, non. Il n'y a pas du « tu ne peux rien faire » qui diminue le degré d'amour de Dieu pour toi. En fait, c'est tout son argument ici. Il dit, mais s'il nous a aimés quand on était des impies, hein, il nous dit, au verset 6, il dit, il nous a aimés quand on était impies et il a donné son Fils. Combien plus est-ce qu'il Est-ce que ce sera vrai qu'il nous aime maintenant que nous sommes à lui, même si nous ne sommes pas parfaits, hein? Entre nous, on se supporte parce qu'on sait que on n'est pas parfait, l'autre n'est pas parfait, donc bon, soyons patients les uns avec les autres. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Il dit, moi, je t'aime. Point. Donc, l'amour de Dieu, c'est ce geste. Et donc, si on veut se rassurer sur l'amour de Dieu pour nous, ben, il suffit de regarder la croix. Et se dire, il est mort pour le monde, il est mort pour sauver l'Église, donc ceux qui croient, et il est mort pour moi, tout seul. Et ça reste vrai, Christ est mort pour cela, parce qu'il aime, c'était son geste d'amour. Dans cet amour de Dieu, la première chose, c'est qu'on voit que son amour est inconditionnel. Parce qu'au verset 5, il nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, quand c'était dans son programme, au temps marqué, il est mort pour des impies. » Il dit « Dans le pire des cas, des gens qui ne veulent pas de lui, qui le rejettent, il a dit « Il est mort pour eux. » Je ne suis pas de ceux qui disent « Christ, il est mort uniquement pour ceux qui allaient croire. » Pour moi, la Bible dit qu'il est mort pour tous. Même ceux, parce qu'il les aime quand même. Hein. Ce n'est pas qu'il aime seulement ceux. Si tu vas m'aimer, je t'aimerai. Mais si tu ne m'aimeras pas, eh bien moi aussi je ne t'aimerai pas. Ça, c'est un langage humain. Mais la Bible me dit, il dit qu'il a aimé les impies. Et son désir, c'est de gagner ses impies à lui, en les aimant, et qu'il ne reste pas impie. Il dit, si Christ a pu mourir pour des impies, au lieu de faire appel à des anges qui auraient pu le délivrer de la croix, hein, il a dit, c'est pas que c'était pas possible, hein, il a dit à Pierre, il a dit, écoute, toi déjà, tu vises mal, hein, tu voulais couper le gars en deux, et tu as pris que l'oreille. Ce n'est pas sur toi que je vais compter. Il dit, si j'ai besoin de délivrance, je peux faire appel aux anges. Mais il a dit, non. Il a été sur la croix, et son amour lui a permis de dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a mis les choses dans leur juste perspective. Il a dit, c'est des gens manipulés qui ne comprennent pas, ils n'ont pas encore saisi pourquoi je suis là. Et ils ne comprennent pas, mais bon, tu vas te servir de cette mort et beaucoup comprendront. Il dit, et donc cet amour est tel, hein, l'amour de Dieu est inconditionnel, parce que dans le pire des situations, alors qu'on est en train de le torturer, hein, c'est facile de dire, il est gentil avec moi, je l'aime. Ça ne coûte rien. Mais c'est quand il est en train de, dans l'agonie, dans la souffrance la plus intense, il peut dire, paix, pardonne-leur. Et c'est là la preuve qu'il y a une œuvre qui a été faite chez Étienne. Hein. Étienne a pu dire, alors qu'il était en train de lapider, il dit, Père, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une transformation de cœur. Hein. Ce n'est pas un humain qui arrive à dire cela. Et donc, son amour est inconditionnel. Il a dit, tu peux faire ce que tu veux, ça ne change rien à mon amour. Je t'aime quand même. Oui, ça nous rassure et ça me permet de pouvoir dire à quelqu'un, même si je ne sais rien sur son passé, je veux dire, tu sais, Dieu t'aime. On peut dire ça à une personne qui est désespérée de la vie, sur le point de mettre fin à sa vie, on lui dit, tu sais, peut-être, mais Dieu t'aime, tu es aimé. Et ça change tout. Parfois, ça change. Mais ça sauve une vie. On peut le dire à quelqu'un qui dit, mais monsieur, vous ne connaissez pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de savoir, parce que je sais que Dieu t'aime. Et on peut le dire, et on peut être rassuré nous-mêmes et dire, et si jamais Satan vient vous souffler à l'oreille, murmurer à l'oreille, tu sais, mais tu sais, tout le monde ne sait pas tout sur toi, mais Toi, tu sais ce qui est sur toi, tu sais ce que ta vie a été. Et tu crois que Dieu t'aime encore ? Eh bien, ne lui répondez pas. Dites au Seigneur de lui répondre. Parce que le Seigneur lui dira, je suis mort pour lui. Hein, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel et aussi son amour est incomparable. Il n'y a personne qui a aimé comme Dieu a aimé. Il le souligne ici au verset 7, hein, Romains 7, il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Il dit, ça pourrait arriver qu'on se sacrifie pour un juste. Quelqu'un mourrait pour un homme de bien, mais il dit, mais Dieu est mort pour des pécheurs, des impies. Il dit, son amour est incomparable. Verset 8, il nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, t'as aimé quand tu étais au pire, donc combien plus est-ce vrai qu'il t'aime aujourd'hui? Matthieu 9, 13, Jésus dit, je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Il dit, je suis venu pour des pécheurs. Hein? On le critique d'aller chez Zachée. Il dit, mais il va chez un pécheur, c'est terrible ça. Il dit, mais je suis venu chercher sauver ce qui était perdu. Paul écrit à Timothée, il dit, c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois que ce n'était pas juste pour faire de la modestie. Quand il vraiment était convaincu, parce que pour lui, il avait persécuté l'Église. Et pour lui, ça, c'était la chose la plus terrible. Et donc, il se considérait comme vraiment étant le plus grand des pécheurs, parce que c'était volontairement qu'il s'opposait à l'œuvre de Christ. Et il dit, mais il m'a aimé moi. S'il m'a aimé moi, il peut t'aimer toi. Hein? Paul pouvait le dire. La race humaine n'est pas digne de cet amour, car le péché de l'homme, la désobéissance dans le jardin, a fait que les démons, les maladies, la mort sont constamment présents dans ce monde. C'est à cause du péché. Dans ce monde, sans parler de tous les cimetières, dès qu'il y a du monde, il y a un cimetière. Tout ça, c'est le résultat du péché. Des centres hospitaliers, des centres psychiatriques, des prisons, la précarité, la misère, la haine, les guerres, la violence, la famine, les épidémies, la corruption. Tout ça, c'est le produit du péché. On en a fait des dégâts dans notre monde. On en souffre. Mais il dit, c'est quand toutes les choses sont comme cela, c'est là où j'ai choisi de venir vous dire combien je vous aimais. C'est un amour incomparable. Combien sont ceux qui disent, ah, mais bon, j'aimerais d'abord un peu mettre de l'ordre dans ma vie avant de venir à Dieu. Il dit, non, je t'aime comme tu es. Viens, quand tu es, et c'est moi qui ferai le ménage. Oui, l'amour de Dieu. Il fait donc la preuve de l'amour de Dieu, et cet amour est inconditionnel et son amour est incomparable. Ensuite, deuxièmement, nous voyons la provision de l'amour de Dieu, ce que l'amour de Dieu apporte. Ben, l'amour de Dieu, la première chose, donc les versets 9 et 10, il dit, on est sauvé. Hein. C'est à la base de, c'est ça, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est l'amour de Dieu qui est à la base, à l'origine de notre salut. Regardez les versets 9 et 10. Et vous voyez, et deux fois, on a à plus forte raison. Du verset 9, il dit, à plus forte raison, donc maintenant. On vient de dire, quand vous étiez impie, il est mort pour vous. Verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il dit, en fait, il est en train de parler, il dit, par sa mort, il y a un aspect du salut. Par sa vie, il y a un aspect du salut. Il dit, nous sommes devant Dieu. Eh bien, il dit, nous sommes justifiés. Nous sommes réconciliés à Dieu. Hein, comprenez qu'on est réconciliés à Dieu. C'est pas... Nous, chez les humains, on dit, ils se sont réconciliés. C'est-à-dire, les deux avaient besoin d'admettre quelque chose. Le tort est des deux côtés. On dit toujours se réconcilier. Mais là, c'est toujours se réconcilier à Dieu. Lui, il n'est pas dans le tort. C'est lui qui, lui n'a pas changé, il n'a pas bougé. C'est nous qui nous sommes égarés. Et donc, on revient à lui. Hein, donc, il dit, nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés à lui. Et nous sommes restaurés à une nouvelle vie en lui. Hein, et donc, il dit à plus forte raison. Un, par sa mort, vous êtes sauvés. Deux, par sa vie, vous êtes sauvés. Et dans les deux cas, il parle de justifier, réconcilier. Hein, c'est pas seulement une chose, c'est une chose qui reste avec nous. C'est un état qui continue, même s'il continue son œuvre en nous. Et il dit, et non seulement est-ce que Dieu nous restaure ce que a été perdu en Éden, hein, nous, pour nous, retourner dans le jardin d'Éden, retrouver cette harmonie qui est là, les animaux, aucun animal ne se nourrissait d'un autre, tous étaient végétariens, il n'y avait pas la mort, il y avait l'abondance, si on pouvait avoir ça, ça nous coûte cher d'essayer de le faire et on n'arrive pas. Et là, c'était exact, mais c'est pas seulement cela. Il nous dit, mais je ne vous rends pas ce que vous avez perdu dans le jardin d'Éden, mais ce que je vous rends, c'est encore plus. Donc, Dieu ne nous punit pas. Encore, on dit, si nous rendez ce qu'on avait perdu, c'est déjà quelque chose. Il dit, non, je vous donne encore plus. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Et il dit donc, ce que je vous donne, Adam avait une relation de créature et créateur. Il a une intelligence, comme Dieu fait toujours les choses très bien, il lui a donné un monde très bien et tout. Mais maintenant, nous sommes réconciliés à Dieu, nous sommes justifiés, il nous donne un nouveau statut, nous sommes enfants de Dieu. Et nous pouvons être en communion avec lui, et nous avons accès, hein, et comme si je comprends bien les choses, dans l'Écriture, il n'en dit pas beaucoup sur ce que sera l'éternité, mais j'ai cette impression qu'on pourra monter au ciel, on pourra marcher sur terre, hein, comme Jésus après sa résurrection, il a dit je m'en vais, je redescends, il apparaît, il disparaît. Ça, c'est cet état-là, hein, que nous aurons. Il dit donc que c'est bien plus que ce qu'il y avait dans Éden. Pourtant, ça c'était déjà pas mal, hein, de notre point de vue. Et donc, nous avons des bénédictions encore plus grandes et nous jouissons d'une relation plus étroite. Il nous parle de... c'est par sa mort que nous avons ça. Il dit maintenant, et par ma vie, hein, vous êtes sauvés aussi. Le verset 10, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Christ, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Hein, il y a ce qu'on a obtenu par sa mort, et il est ressuscité, et il y a ce que nous obtenons par sa vie. Et c'est de cela que nous jouissons maintenant en tant qu'enfants de Dieu. Donc, Christ a donné sa vie pour nous sauver de la condamnation du péché. Maintenant, par sa vie, nous sommes délivrés de la puissance du péché. Et nous attendons ce jour où nous serons délivrés de la présence du péché. Quand il viendra nous prendre, et il n'y aura plus le péché. Hein, donc, ce premier stade, on est délivré de... la condamnation du péché, la colère de Dieu, on n'en craint plus, la juste colère de Dieu. Et Maintenant, le Seigneur, il nous donne, et il développera ça à partir du verset chapitre 6, la puissance du péché qui a agi en nous. Il a dit, non, vous n'êtes plus esclaves du péché. Et on va être délivré de la puissance du péché. Et ensuite viendra le jour où on sera délivré de la présence du péché. Et alors là, on ne sait même pas comment c'est tellement. Nous, on n'a connu que ça. Hein. On ne sait pas ce que ça va représenter, mais ça ne peut être que très bien. Donc, nous avons la preuve de l'amour de Dieu, après la provision de l'amour, c'est le salut et la transformation. Et puis, troisièmement, verset 11, eh bien, il nous parle du fruit de l'amour de Dieu. Il dit, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous savez, quand Adam et Ève ont désobéi dans le jardin, remarquez que je dis Adam et Ève, je ne mets pas la faute ni sur Ève, ni sur Adam tout seul, ils ont fait ça ensemble, ils se sont consultés, ils sont solidaires là-dedans. Donc voilà, lorsque le péché est entré dans le monde, il a envahi la vie d'Adam et Ève, au point que le péché agit tellement qu'il crée une aversion à Dieu, un dégoût, une répugnance. Vous savez, on arrive au point, vous regardez le monde autour de vous, il fait tout pour essayer d'exclure Dieu. Hein? Ne m'en parle pas, ça n'explique rien, pas de Dieu. Il y a plus qu'un parti politique qui dit ni Dieu ni maître. Hein. C'est un peu l'attitude de tout le monde, presque. Il y en a qui sont plus vocales que d'autres, mais l'attitude est là. Hein. Donc, le péché est entré, et l'œuvre du péché, c'est de dire, bah, écoute, rejette Dieu complètement, tu n'en veux pas, tu n'as pas besoin de lui, tu peux te débrouiller toute seule. C'était un peu la tentation de Ève, hein, dit, tu viendras comme un Dieu. Et il n'aura rien à t'apprendre, tu auras la connaissance du bien et du mal et tout, tu n'as pas besoin de lui. C'était la tromperie de Satan, et puis il n'a pas changé, hein, son message est le même. Mais le salut de Jésus nous donne un désir de mieux le connaître. C'est l'une des premières choses qu'on ressent lorsque je reçois la vie nouvelle, c'est que j'ai envie de connaître Dieu. J'ai envie de lire ma Bible, j'ai envie de comprendre autre chose. Hein? C'est comme quand un bébé naît, la première chose qu'on attend de lui, c'est que d'abord qu'il hurle, et deuxièmement qu'il a envie de se nourrir. Mais c'est dans la vie chrétienne, hein, quand on reçoit Jésus-Christ, eh bien, les premiers signes qu'on veut avoir, c'est d'abord qu'il a envie de remercier Dieu, et puis il a envie de se nourrir et de lire la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit, nous nous glorifions en Dieu. Vous savez, pour essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire, nous nous glorifions en Dieu, c'est, il parle de cette, glorifier, c'est, on est en train de dire, c'est d'exprimer une joie. Hein, de glorifier, c'est, on a envie de dire des choses, hein, quand on glorifie quelque chose, c'est qu'on dit du bien sur quelque chose. Imaginez... vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Vous rappelez, dans l'histoire, il était au loin, et puis piteux état, et puis il pense à son père et dit, oh, si je pouvais rentrer, et si je pouvais juste être le dernier des ouvriers. Mais au moins, je travaille dans les champs de mon père. Ce serait pas mal. Il rentre à la maison, clopin clopant, hein, parce qu'il est en mauvais état, et il arrive, et l'accueil qu'il reçoit, c'est le papa, qui prend dans ses bras, et le protège de toutes les mauvaises langues qu'il pourrait y avoir dans le village. Ils vont dire, ah ben celui-là, ah non. Et il l'emmène jusqu'à la maison, il rentre dans la maison et fait la fête. Imaginez, à partir du lendemain, qu'est-ce que ce garçon va dire de son père? Il va dire, mon père, je ne le connaissais pas comme ça. Oui, bien sûr qu'il m'aimait. Mais là, maintenant, c'est autre chose. J'avais pris son bien. J'avais dépensé, gaspillé, je me sentais mauvais, tout, j'avais honte, je ne pouvais même pas lui regarder dans les yeux quand j'arrivais. Il m'a pris dans ses bras, il m'a donné des vêtements nouveaux, il a fait la fête, il a dit à tout le monde, mon fils qui était mort, et voilà, il est vivant. Même mon frère qui ne m'aime pas, il lui a dit. Il dit, mon père, c'est extraordinaire. Laissez-moi vous parler de l'amour de mon père. C'est ça. Si vraiment je suis sauvé, eh bien je vais glorifier le Père. Je vais dire à tout le monde ce qu'il a fait pour moi. Ce que j'ai découvert. Moi j'avais une idée de Dieu, mais maintenant que j'ai reçu Jésus-Christ, mais j'ai une toute autre idée de Dieu. J'ai enfin découvert un autre côté, le côté de son amour. Il dit, c'est tout un autre langage. Il dit, moi, je m'aurais contenté de travailler dans le champ. Vous savez, c'est ça la base de beaucoup de religions. Hein. C'est juste à peine, je peux rentrer au ciel. Je ne demande pas plus de Dieu. Déjà, s'il me pardonne, il me dit, mais même sans me regarder, sans dire bonjour, il dit, vas-y, passe, je ne veux pas te voir. On serait content. Et il y a l'attitude de beaucoup quand ils parlent de leur foi, c'est ça. Hein. Ils espèrent que, bon, même, je fais un petit tour au purgatoire, là, pour essayer de purger un petit peu, je souffre un petit peu, puis après, ils me disent, bon, je te laisse passer. Mais ne bouge pas, hein, fais pas de bruit. C'est ça le meilleur que les religions nous offrent. Mais l'évangile de Jésus-Christ, grâce à la croix, eh bien, il nous justifie, il dit, le péché est pardonné, il n'y a plus rien, je peux te prendre dans mes bras, et je peux t'embrasser, je peux te dire que je t'aime. Et dit, je t'aimais quand tu étais sale et je t'aime encore plus maintenant que tu es propre. Et puis, et nous, qu'est-ce qu'on est là? On est là. Waouh, mon père! Mais il m'étonne! Je ne savais pas qu'il était capable de ça. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on va parler de Dieu. Si on a vraiment expérimenté le pardon du péché de Dieu, on va dire, écoute. Moi, je vais te parler de l'amour de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Et en fait, quand vous lisez l'apôtre Paul, c'est un peu ce qu'il dit tout le temps. Hein. Dès qu'il a l'occasion, il dit, moi, ce que j'étais. Et Dieu m'a fait miséricorde, il m'a fait grâce, il dit, laissez-moi vous parler de Dieu, c'est pas autre chose, c'est un Dieu, il est inconnu à vous, mais je l'ai découvert. Et donc, il nous dit, maintenant, le fruit de cet amour qui agit en nous, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, nous glorifions en Dieu. On est content. On se vante, mais de l'œuvre de Dieu. Hein, dans l'œuvre de Dieu. Et maintenant que nous avons obtenu la réconciliation. C'est beau la réconciliation. Ça change une vie. Hein? Quand il y a une réconciliation dans un couple et puis après ça commence à reconstruire la famille, on refait. Et j'en ai vu, hein, moi je sais, et c'est beau. Et les enfants, je connais des cas où les enfants étaient jeunes, et puis, mais il y avait une où c'est l'aîné se souvenait de ce que c'était avant. Il dit, oui, je sais ce que c'était. Mais la réconciliation, c'est autre chose. Et après, c'est toute une autre vie. Et pour tous ceux qui vivent autour de nous. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est pas une religion. Ça, c'est l'amour de Dieu qui agit. L'amour de Dieu qui est inconditionnel. L'amour de Dieu qui est incomparable. L'amour de Dieu qui est à la base de notre salut, peu importe dans quel état on se trouve. Il dit, vous savez, entre vous, vous croyez qu'un est meilleur, plus et moins sale que l'autre. Mais par rapport au ciel, vous êtes tous trop sales. Hein? Pour n'importe comment, pour le ciel, c'est la poubelle. Mais la poubelle, vous savez, les antiquaires, ils récupèrent la poubelle et puis ils font quelque chose de bien. Ça prend de la valeur. Et Dieu dit, mais moi, je fais encore mieux que ça. Je prends des pécheurs et je les transforme en saints. Et à Dieu soit la gloire. Amen. Nous allons passer quelques instants à la prière. Peut-être vous voulez dire, mais Seigneur,
Merci. Merci. Je ne sais pas comment te dire plus, mais merci. Et je veux te glorifier plus. Et puis pour d'autres, dire, mais c'est justement, c'est ça qu'il me faut. C'est ça que je voudrais. Oh, Dieu, reçois-moi, pardonne mes péchés et reçois-moi. Quelle que soit votre prière, sachez qu'il vous aime assez pour vous entendre, vous écouter et pour intervenir.